Vous écoutez
RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
Bonsoir à tous, la soirée là jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Bien sûr, nous sommes en direct à la radio, sur RMC, en direct à la télé, sur RMC Sport News, dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. La Ligue 1 est au programme ce soir, comme tous les dimanches, avec Pierre Ducrot. Pierre, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Et avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir, les amis.
Les résultats, les gars, Marseille gagne à Lille 2-1, on en parle tout de suite. Lyon-Strasbourg à partout, on en parlera également. La défaite de Saint-Etienne à Brest, 3-2. Et la victoire de Reims face à Rennes, 1-0. Deux résultats européens importants ce soir. Real-Celta en Espagne, 2-2. Et en Italie, le choc du week-end, la Lazio qui bat l'Inter 2-1. Simone Rovera sera d'ailleurs avec nous avant minuit. La Lazio désormais à un point de la Juve qui passe deuxième de la Serie A. Vous le savez, en Ligue 1, comment c'est réel, l'essentiel c'est les 3 points. Alors bah, allons-y tranquillement dans l'after, c'est parti.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les 3 points.
Et souvent l'essentiel c'est le plus important. Ouais.
Les 3 points de débat de Pierre Ducrot, messieurs, dames, attention, soyez concentrés.
Très.
Le premier c'est l'OM qui sans être très créatif, voire pas du tout, a été une fois de plus très cohérent et ça suffit. Ça suffit pour gagner un match contre Lille. Mon deuxième point, ce sera les Lillois. On développera, mais trop brouillon, trop. Même s'il y a une bonne demi-heure en première période, après en seconde, ils n'arrivent jamais à réagir une fois qu'ils ont encaissé ces deux buts très rapidement, coup sur coup. Donc déception quand même du côté de Lille. Et puis le troisième, c'est reparler de Saint-Etienne parce que c'est une nouvelle fois assez inquiétant quoi.
Ce soir. Daniel, tes 3 points.
La grosse victoire de l'OM qui est en train de faire le ménage derrière. À chaque fois qu'on dit que l'OM va avoir des problèmes, que dès qu'il manque Payet, on a l'impression que le monde va s'écrouler, que la période allait être compliquée. Moi, j'ai très vite pensé, je continue évidemment, c'est encore plus facile de le penser maintenant, qu'ils seront deuxième dans un fauteuil. Dans la victoire de ce soir, après une première mi-temps qui était quand même très terne, mais une grosse deuxième mi-temps, j'ai beaucoup aimé. Et c'est là, à mon avis, qu'ils ont construit leur victoire, c'est au milieu de terrain. Parce que c'était un milieu de terrain qui était hyper renforcé avec Valère Germain qui jouait milieu droit. Ils ont carrément joué à 5 au milieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fini par étouffer les Lillois qui dans ce secteur ont plutôt été meilleurs en première période. Et puis le troisième, bah non Pierre, je suis désolé, Saint-Etienne on s'en fout complètement.
Dans les non, non, parce que c'est Saint-Etienne non, justement.
Saint-Etienne n'a plus aucun intérêt.
Tu t'en fous, mais moi ça m'embête.
Mais en revanche, il y a Lyon. Et Lyon, faut en parler parce que c'est un club. Je sais qu'on l'oublie parce que on en parle pas, mais ils sont en Ligue des Champions. Je signale, parce que oui, on ne parle que du PSG.
Oui.
Et Lyon est en Ligue des Champions dans 15 jours contre la Juve, un très gros club. C'est un très gros match. C'est un club qui a 250 millions de budget, ou en tout cas plus de 200
ouais,
selon les calculs de
Vu ce que tu vois là.
Saint-Etienne ne présente aucun intérêt par rapport à l'OL dans notre football. Et l'OM se fout de la gueule l'OL se fout de la gueule du monde. Aulas se fout de la gueule du monde. L'OL est en train de s'enfoncer
dans une médiocrité. On peut parler des deux, alors, si tu veux.
L'OL est en train de s'enfoncer dans une médiocrité sans nom. L'OL, en ce moment, c'est absolument affreux. Et le pire, c'est que dans ces périodes-là, Aulas en profite pour se foutre de la gueule du monde à 100%, et personne ne dit rien, on le laisse parader, raconter ses conneries, et Garcia, on ne va pas mettre 3-0 à tout le monde. Non, on a vu qu'aujourd'hui, tu n'as pas mis 3-0 à tout le monde. Tu ne mets 3-0 à personne, ce n'est pas à tout le monde, c'est que tu mets 3-0 à personne, en fait.
Ce sera tout à l'heure, Lyon au programme, tout comme Saint-Etienne, mais pour l'instant, on parle de l'OM, donc il gagne ce soir face à un concurrent direct, hein, quand même, hein, faut le dire.
Oui, carrément. C'était un très grand match, quand j'ai dit pour le ménage, là, c'est terminé, ils ont déblayé le terrain, là.
Laurent est là, supporter marseillais, salut Laurent.
Salut messieurs, salut tout le monde.
Bonsoir Laurent.
Salut.
Bah, quand Lille mène 1-0, tu te dis, ouais. Bah là, quand même, il va falloir aller la chercher. Ils étaient pas bien.
T'es mal barré. Mal barré parce que jusque-là, on a quand même proposé, bien sûr, on a été même bien en place en première mi-temps. Ça a été quand même assez minimaliste. On prend ce but, quand même, qui quelque part était logique au vu de la physionomie de la partie. De gros arrêts de mandant en première mi-temps. Et puis après, ben, la partie rationnelle, c'est-à-dire. C'est-à-dire la passe D de le but de Germain, la passe D de Germain pour le deuxième but de Pipa, qui se réveille après des mois de pénitence, la super rentrée de Hakier, et puis à partir de là, on les a complètement étouffés, comme disait Daniel, au milieu de terrain.
Ouais, mais Laurent, excuse-moi, mais tu préfères quoi au final dans un match? Bon, Germain, on le sait depuis toujours, on connaît ses qualités.
Ouais.
ses défauts. C'est toujours la même chose. On parle toujours de lui et de la même façon. Si on prend son match, quand il est dans la difficulté, comme toute son équipe dans la première période, eh ben il souffre, effectivement. Mais le mec, il travaille, il bosse. Il a l'humilité de savoir ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Face à lui, dans un rôle, on va dire quasi similaire sur le terrain, t'as un mec comme Ikoné, qui est dans plein de bons coups et qui est en joueur intrinsèquement supérieur, qui pendant, mais qui joue 25 minutes dans le match. Sauf qu'à l'arrivée, le Germain, qui d'abord souffre, d'abord rame, avec ses qualités, fait tout ce qu'il peut, joue milieu de terrain, parce qu'on lui demande de jouer milieu de terrain. En tout cas, il joue plus bas que son rôle d'attaquant supposé. Et qui termine en s'arrachant au premier poteau, en allant mettre cette tête d'égalisation, qui fait une très belle passe décisive sur le second but. Ben, excuse-moi, c'est ce que tu disais, Pierre, tout à l'heure, ça s'appelle la cohérence. Le football, c'est moi, je veux bien qu'il y ait des mecs. Il y a des mecs à Lille qui sont bien supérieurs aux Marseillais. D'ailleurs, la première mi-temps que fait Sanchez, franchement, tu vois que c'est un mec qui a des grosses possibilités. Ouais. Les gars, ils finissent tous par se fracasser sur la cohérence marseillaise, qui est un gros bloc défensif.
Osimhen aussi, tous, Bamba,
un milieu de terrain très consistant, où Camara, franchement, fait des très gros matchs. Camara, c'est vraiment fort ce qu'il fait. Mais à côté de lui, Sanson, Rongier, les mecs, alors, ça manque de talent. Quand Payet n'est pas là, t'as pas de mec pour faire des passes un peu entre les lignes. Pour,
ça, on ça va manque dire, de créativité. Pour,
voilà, c'est ça, la créativité. Mais à l'arrivée, quand dans la seconde période, la plupart des bons mouvements collectifs, ils sont pour l'OM. Le mouvement qui amène le but de Benedetto, c'est un très beau mouvement collectif. Ah ouais. Alors, c'est pas flamboyant, mais on parle de la Ligue 1. La Ligue 1, bah, on sait que c'est pauvre, on sait que c'est triste, il suffit de voir les matchs de l'après-midi. Et ben dans cette pauvreté d'ensemble, bah l'OM, tu ne peux que souligner que ce qu'ils font, c'est très très bien.
C'est, voilà, très, c'est très pour bien. Ça que mon premier point, c'était l'OM cohérent, et le deuxième point, voilà. Lille très 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 brouillon, parce que c'est une somme, c'est une somme d'individualité qui.
30-35.
Si, il y a une occasion. Alors, je suis d'accord sur la comparaison au niveau de l'état d'esprit entre Germain et Ikoné, mais pour moi, c'est
25,
pas.
25,
c'est
dur parce que c'est loin d'être la première mi-temps.
On l'a dit, il y a une demi-heure.
J'ai eu un moment, surtout au début, que Lille était en train de brutaliser l'OM.
En fait. Non mais quand Lille mène 1-0, tu te dis Marseille fera rien, ils n'y arriveront pas. C'est derrière qu'ils arrivent.
Avant de mener un zéro,
à ce moment-là, j'ai un peu le même sentiment que toi. C'est vrai. Mais parce que tu penses que, logiquement après ce que tu vois et cette façon, vraiment, j'avais l'impression
qu'ils n'ont pas la ressource pour le faire. Et en fait, ils l'ont.
Ils allaient. Mais c'est même pas tant ça. En fait, c'est Lille qui ouvre une porte à un moment. Parce qu'ils ne maintiennent pas la pression.
Marseille se réorganise en temps.
Ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps.
Mais voilà, en fait, t'as l'impression qu'ils sont sur courant alternatif, Lille.
Ça dure.
À un moment, t'as l'impression qu'ils sont en train de brutaliser l'OM. Ils leur mettent des claques. Ils leur rentrent dedans. Et que Marseille, tu sais, c'est comme si les blancs rapetissaient sur le terrain. Ouais. Mais sauf que ça dure pas.
Voilà, ça dure pas. Et sauf que quand il a fallu que l'OM joue pendant, 10-12 minutes pour revenir, eh ben, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et après, ils sont revenus de façon cohérente dans un bloc plus bas.
Parce qu'ils sont continus.
Et où Lille s'est cassé les dents dessus parce que ça a été trop brouillon et trop individuel. Surtout, moi, c'est ce qui me choque un petit peu ce soir chez les Lillois.
La deuxième mi-temps de Lille, elle est horrible.
Ouais, t'as des bons joueurs, mais ils jouent tout seuls. Ils jouent tout seuls. T'as une occasion à un moment donné où Bamba doit, mais c'est, enfin, tout le monde le voit, il doit décaler, il connaît, et il le fait pas. Et ça, c'est une somme de détails comme ça, ou de mauvais choix, oui, parce que ce sont pas des détails.
Laurent, un truc à rajouter,
un état d'esprit dans cette équipe quand même de Marseille qui est extraordinaire.
Parce qu'on rappelle, bien sûr.
1-0, c'est extraordinaire. Je suis vraiment très très fier. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis abonné à Marseille. Je suis vraiment très très fier de mon équipe ce soir. Allez l'OM, et je pense que la seconde place, on va aller la chercher, on va aller au bout. Quoi.
C'est la seule certitude que tu as en ce moment à l'OM, et c'est celle qui suffit aujourd'hui en Ligue 1 pour s'imposer. C'est d'avoir une équipe, même pas, enfin c'est même pas en joueur avant le match. Hein, c'est vraiment un groupe avec un coach où c'est cohérent. Avant le match, on en parlait, et moi j'étais persuadé que l'OM poserait des problèmes. Alors je les voyais pas gagner ce soir. Je les voyais faire un nul et rendre la soirée très difficile à Lille. En plus de ça, t'as ces 10 petites minutes qui te sourient et.
Te rends compte de ce qui se passe en une semaine pour l'OM. Alors, bon, il y a eu ce match de Coupe de France, mais c'est pas de la Ligue, hein, la Coupe de France. Tu as eu, quand je dis ils font le ménage, ils étaient dans une période un peu compliquée au niveau des calendriers parce que le déplacement à Lille, la période, je me souviens même qu'il y a un moment, on a même dit que le déplacement à Saint-Etienne allait être compliqué alors que Saint-Etienne ne ressemble plus à rien. En une semaine, t'as Rennes qui s'est mis une balle dans le pied tout seul en faisant n'importe quoi dans la gestion du club en virant le président. T'as Lille qui reçoit Marseille qui peut être un peu confort, parce que s'ils battent l'OM, d'un coup, c'est, on va dire que le podium, il semble se dessiner Paris-Marseille-Lille. T'as Lyon qui s'auto-détruit en faisant n'importe quoi, encore une fois, cet après-midi.
Bah, attention, parce qu'il y a Monaco qui revient.
Non, mais,
il y a Montpellier qui est dans les parages.
Il y a des points, Gilbert.
Il y a des points, on parle de l'OM. Sur la deuxième place, moi, je suis globalement d'accord. Place,
ouais. Mais moi, je comprends pas pourquoi, depuis des mois, vous faites la fine bouche. Non, mais l'OM, ce soir, ils ont 11 points d'avance sur Rennes. Ils en ont 12 sur Lille. Ils en ont 14 sur Monaco. Sans parler de Lyon, qui est carrément dans les choux, qui est à 18 points. Non, mais, Lyon a 18 points de l'OM.
Toi, c'est monumental. Tu dis deuxième, c'est réglé.
Mais il va falloir pour que Marseille perde les points et que les autres gagnent, c'est compliqué.
Tu veux quoi?
La troisième place, pour qu'ils perdent la deuxième place.
La paix, c'est un peu dur, mais un petit coronavirus.
Franchement, ils sont confort, l'OM. Tous leurs matchs,
quand ils jouent mal,
comme le fameux match du week-end dernier contre Toulouse.
Ah tiens, remarque intéressante.
Dernier, ils sont pas bons, ils finissent quand même par le gagner. Bon, tu parles Toulouse, tout le monde les bat.
Les matchs où ils ont gagné contre Toulouse. Ils jouent jamais mal en ce moment. C'est qu'ils restent des fois, tu t'ennuies quand même. Oui, non, tu t'ennuies, mais ils jouent pas et parfois ils ne jouent pas au foot. Mais ça reste toujours très cohérent ce qu'ils font.
Remarque intéressante qu'on me fait me dise, vous vous extasiez sur la stratégie marseillaise du soir alors que finalement ils ont joué à la Deschamps avec Bounassar qui est comme Matuidi.
C'est pas qu'on s'extasie, c'est qu'on dit que ça fait la différence aujourd'hui.
S'extasie pas sur ce qu'ils produisent sur le terrain. Il y a beaucoup de choses positives que je peux relever. Je dis dans le
en plus tu fais quoi d'autre
dans
sinon
le contexte Ligue 1
avec le Marseille, enfin l'effectif de Marseille que tu as aujourd'hui, voilà.
sans Payet, sans Ligue 1,
notre championnat, dans la pauvreté d'ensemble que tu vois chaque week-end, tu vas jouer à Lille où pendant une bonne partie de la première période ils se font bousculer dans tous les sens, où Lille mène logiquement à l'arrivée, ils reviennent avec 2-1. Il s'agit de constater que l'OM est très bon.
C'est que, en fait, Lille s'est aussi perdu le match quelque part. Parce que les Lillois, ils le tenaient ce match-là.
Ils sont pas capables de jouer 90 minutes.
On va en parler de Lille après. Ça aurait pu venir
un peu plus tôt avec le pénalty. Parce que Maignan sauve un peu les meubles un petit peu avant encore. Ouais. Et cette faute, déjà, elle est idiote dans la surface. Ça aurait pu même arriver un petit peu avant.
À ce moment-là, Marseille a quand même très peu d'occasions. Et Bounassar va le chercher. Qu'est-ce que c'est mal défendu?
C'est pas le week-end de Thiago, c'est une grosse erreur entre Thiago, Diallo et Thiago Silva.
Il y a pas besoin de faire ça, mais il est d'une stupidité sans nom d'aller.
Et on dit tous avant, qu'il le frappe, c'est une occasion en or pour revenir sans avoir rien produit, etc. Absolument. Et quand il le rate, tu te dis bon bah voilà, c'est pas le soir de Marseille quoi, c'est fini. Mais ils ont eu le moral pour.
Guilain est là, supporter de l'OM. Et puis on attend les supporters du LOSC. Si vous sortez du stade, par exemple, appelez-nous 32-16, on vous attend. Salut Guilain.
Salut, bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous?
Toi tu dis merci Lille.
Je dis merci Lille, ouais, je dis plusieurs merci en fait. Le premier à Lille qui s'est un petit peu sabordé au fur et à mesure du match. Merci à Rongier qui a surréveillé ses 10 potes.
En ratant le péno, tu veux dire?
Ouais, en ratant le péno, il a eu le mérite de réveiller ses 10 potes qui se sont dit, et c'est là où on voit un état d'esprit, une mentalité incroyable, c'est ils se sont dit on va pas laisser notre gars sombrer tout seul, même s'il était blanc comme un linge au moment de tirer le pénalty, et ça se voyait qu'il était pas bien, il avait la frousse. Ça s'est vu sur le tir. Mention spéciale à Valère Germain qui a été topissime. Après avoir passé des mois aussi transparents, pas transparents parce qu'il fait quand même un gros travail défensif sur tous les matchs. Mais et ça s'est passé mis en avant souvent, mais là ce soir but passe D, c'est très très beau. La seule ombre au tableau, le seul doute que j'ai à la rigueur et c'est atténué par son but, Benedetto qui prend pas ses responsabilités sur le penalty. C'est la seule ombre que j'ai, ou alors n'y a-t-il pas un tireur de penalty désigné quand Payet n'est pas là?
Je pense qu'il y a une liste qui est établie avant le match et que sur cette liste Rongier était le premier, je pense.
Histoire du péno, Rongier apparemment resté sur deux pénaux ratés avec Nantes, hein.
Je trouve que c'est intéressant ce qui s'est passé sur le péno, parce que quand Rongier va pour le tirer, forcément moi il me revient, je crois que c'est il y a 2-3 jours, la phrase de Rongier qui dit qu'il fait un blocage devant le but.
Exactement.
Bon, alors forcément, on y pense. Et on se dit, pourquoi il va au péno? Pour conjurer justement le sort, pour faire face à la réalité, pour mentalement affronter
après, le pénalty est un exercice différent d'une situation devant le but dans le match. C'est encore différent.
Il dit, bon allez, vu que je ne marque pas, que j'ai ce blocage, j'y vais. Après, j'entends les commentateurs qui disent « Ouais, le numéro 9 doit prendre ses responsabilités et aller au péno. » Bon, ça, je pense que c'est une connerie de dire ça, parce que si Rongier va prendre le péno, je veux pas croire que ça n'a pas été décidé avant.
Bien sûr.
Et que Villas-Boas, surtout quand on sait l'historique à Marseille du début de saison où Benedetto a pris le ballon à Payet et tout.
Il y a un premier, un deuxième et un troisième tireur.
Si on a un péno ce soir, c'est Machin qui le tire. Donc c'était calé. Donc le fait que Rongier y aille, oui, on peut repenser à son blocage. Et deux, lui, mentalement, a dû se sentir de dire à Villas-Boas, ok, j'irai s'il y a un péno, justement, pour vaincre ce signe-là. Bon voilà, ça s'est passé comme ça. Il a
ou alors parce que
préjudice à l'OM.
Après. Parce que avant il était très très bon sur cet exercice, mais après les derniers essais n'ont pas été concluants. Donc il faut peut-être qu'il retravaille ou qu'il arrête, je sais pas comme il veut. Mais effectivement là c'est raté depuis les trois derniers, c'est ça.
C'est ça. Oui. Guilain.
Oui.
Bah écoute, si t'as rien à rajouter, je te dis merci.
Une petite dernière chose, si tu me permets.
Vas-y.
Notre cher Villas-Boas, remarquez à quel point c'est incroyable comme il a su relancer un mec comme Amavi.
C'est vrai. Moi, ça, je trouve bien de le dire parce que le mec était mort pour le foot. Hein.
Il était mort pour le foot. Il allait être transféré soit en Ligue 2, soit en Angleterre, soit je ne sais où. Il était détesté de tout le monde et le gars fait encore ce soir un match plutôt costaud. Donc merci coach et reste avec nous pour l'année prochaine pour la Ligue des Champions, parce que comme vous avez dit, je pense que la deuxième place là, ce coup-là, c'est bon.
Salut Guilain, bonne soirée.
Merci beaucoup.
On fait encore Jonathan qui est supporter Marseille, après on parlera de Lille. Jonathan, bonsoir.
Bonsoir.
Tiens, on va faire une petite évaluation avec toi là. Les tauliers marseillais pour toi, c'est qui ce soir?
Alors pour moi, les tauliers, pour moi, ça va être à ma vie. Déjà pour commencer, parce que énorme match de ma vie, comme l'a dit l'auditeur avant, c'est devenu pour moi l'un des meilleurs latérales gauche.
Mandanda,
taulier, moi j'en ai Steve.
Mandanda est de très loin. Bon, lui, c'est l'homme de la saison, je pense. Et je vais souligner aussi l'entrée du petit Marley Hacquet, qui crée des occasions, a apporté quand même le deuxième but. Il a que 18 ans, faut pas oublier. Il apporte sa fougue, sa jeunesse, et ça fait très plaisir. Et je pense que ce soir, le titre de l'OM, ça va être, comme tout le début de la saison, l'Olympique de la seconde période. Car le jeu d'AVB, ce soir, est encore criant, dans le sens qu'il laisse beaucoup venir les adversaires en première période. Et on a vu en seconde période Lille complètement crever. Et l'OM, en 5 minutes, a pu basculer le match. C'est ces matchs que l'année dernière, on perdait avec Rudy Garcia, que cette année, tous avec AVB, tu les as gagnés. Et là, vraiment, c'est... Le coaching a été extraordinaire.
Tu veux dire que c'est mieux quand il y a un entraîneur?
Ah, c'est... Merci Daniel, merci de
demande à Lyon, hein, parce qu'eux, ils ont trouvé intelligent de prendre un faux entraîneur.
Mais moi, je suis content. Moi, quand Jean-Michel là, il a annoncé la signature de Rudy Garcia, j'étais l'homme le plus heureux du monde, hein, je vous dis la vérité, parce que
je me disais
qu'il ne pouvait pas réussir à Lyon, qu'il n'a pas réussi à Marseille. Donc déjà, pour commencer, bon, on ne va pas parler de Lyon, parce qu'on est sur 18 points de nous ce soir et... Ils sont très loin dans la cave et je souhaite qu'ils restent le plus longtemps possible. On va parler plus de l'OM, mais franchement, voilà, l'esprit qu'a amené AVB dans ce groupe, c'est un groupe de 15 joueurs maximum, a prouvé encore que ce soir, même sans Dimitri Payet, même sans Florian Thauvin, qui sont quand même des joueurs quand même cadres, l'OM était capable de gagner, l'OM combattait ensemble, tous les joueurs font les efforts défensifs. Quand il faut aller devant, ils y vont jusqu'à la dernière minute de jeu. Ils mouillent le maillot de A à Z. Il n'y a pas un joueur cette année qu'on peut dire l'OM, il mouille un peu le maillot. Cette année, il mouille tous le maillot. Et l'esprit d'équipe, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça à l'OM, mais vraiment très très longtemps depuis Marcello. Voilà, il faut le reconnaître, depuis Marcello, je n'ai pas vu une équipe comme ça qui jouait de la première à la 80e non-stop. Voilà, ça fait très plaisir.
Jonathan, t'es à Marseille ou dans le coin?
Oui, je suis à Marseille.
Eh bien, tu sais quoi, cadeau de l'after, on va te filer deux places pour OM-Nantes.
Ah, c'est gentil, merci beaucoup. C'est voilà, très gentil, on aimerait les enfants, là.
Quand tu vois que sur les 5 dernières
années. Salut Jonathan!
Sur les 4-5 dernières années.
Salut, merci à tous.
Ciao, bonne soirée.
Sur les 4-5 dernières années, l'OM a eu deux entraîneurs de renommée internationale et que Lyon n'en a eu aucun. Alors que Lyon est beaucoup plus installé financièrement, administrativement, infrastructure, continuité de dirigeant.
EBITDA.
Exactement. Tu te dis qu'à un moment, c'est bien de prendre des bonnes décisions. Et que l'OM, au final, qui a quand même plein de hauts et de bas, des problèmes d'oseille, de... Bon, ben, sur les 5
dernières années... Oui, mais qui laisse un peu plus de place à ses entraîneurs pour exister.
Et sur les 5 dernières années, je pense qu'ils offrent plus d'émotions à leurs supporters que les Lyonnais, au final.
Ah oui.
Ils font une finale de Coupe d'Europe, ils font une saison de merde l'année dernière. Là, ils vont refaire deuxième, ils vont aller à la Ligue des Champions, mais ils ont un bon entraîneur. Voilà, ils vivent des choses, quoi.
Enfin, Lyon, les émotions en Coupe d'Europe, c'était avec Rudy Garcia.
Oui, non, mais... Je parle de l'historique global. Je parlais des deux entraîneurs de renommée. Je pensais évidemment
à Bielsa. Ah, bien sûr.
Lyon, finalement, qu'est-ce que Lyon offre à ses supporters à part de la frustration depuis des années? Moi, j'ai du mal à comprendre. Quoi.
On parlera de Lyon tout à l'heure. Pour l'instant, concluons sur le match Lille-Marseille avec Paul qui est supporter du LOSC. Salut Paul.
Salut Gilbert, salut Pierre, salut Daniel.
Bonsoir.
Paul, comment t'analyses ce qui s'est passé côté lillois?
Alors déjà, extrêmement en colère. Parce que bon, c'était Guilin qui disait tout à l'heure, c'est pas Marseille qui gagne son match, c'est Lille qui le perd. On fait une première mi-temps, pour le coup, vraiment très bonne, avec ce que Lille sait faire, gros pressing, jeu technique assez léché dans les petits espaces, grosse transition vers l'avant. Et là, en 5 minutes, mais tu t'effondres mentalement. Tu donnes la victoire à Marseille. Et t'es ensuite incapable d'enchaîner 3 passes, incapable d'enchaîner un bon centre. Et Lille a totalement perdu ses moyens. Et en gros, ce soir, on a vu une équipe qui essaie de jouer bien au football techniquement face à une équipe qui a juste une seule chose affichée, c'est son état d'esprit. Et bien là, ce soir, c'est l'état d'esprit qui l'a emporté sur la technique, entre guillemets.
Mais là-dedans,
d'accord avec Paul, les gars.
Ouais, mais là-dedans, ce qui est le plus gênant, finalement, c'est pas de prendre 2 buts contre l'OM, c'est de derrière, justement, pas avoir la bonne réaction, quoi. C'est de pas continuer dans ce qui aurait pu t'amener à être un peu plus performant, c'est-à-dire, ce que t'as fait en première période. T'es plus capable de le faire après. Ce qui veut bien dire que cette équipe, elle est très jeune, et deux, elle s'écroule très vite, et ça témoigne un peu, en tout cas, c'est le symbole de l'irrégularité lilloise cette saison, en fait.
Cette saison, on a enchaîné le très bon et le très mauvais. Là, sur un seul et même match, t'enchaînes le très bon et le très mauvais.
Exactement.
Bon, Paul, après, Lille reste.
La régularité de Lille.
Lille reste là pour la troisième place quand même.
Certes, la dynamique est plus monégasque, mais Lille reste dans le coup.
Non, mais ce match-là a beaucoup d'incidence sur le plan comptable, entre guillemets. On reste à proximité de Rennes, on reste dans le coup pour les places européennes. Mais c'est plus l'état d'esprit qui est affiché. Et l'effondrement moral dans le match qui me gêne.
Ouais. Oui, c'est vrai qu'on l'a tous constaté.
Ouais, mais c'est
pas nouveau
ce que tu dis.
Il manquait quelqu'un quand même de très important ce soir, c'est Benjamin André. Hein.
Oui, non. C'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Tu t'attendais à autre chose?
Ouais. Puis de repenser à Tour et
Même Gabriel a manqué en défense. André a manqué au milieu. Il manquait quand même 2 personnes vraiment très importantes pour l'équipe de l'équipe. Mais bon, faut pas se cacher derrière ça.
T'aurais pu dire Pierre-Yves André.
Pierre-Yves André?
Ce soir, t'aurais pu le dire, toi.
Ah oui, c'est vrai.
Pendant le match.
Sinon, j'ai Tav qui me dit quand même José Font, il est dur à soulever, non? C'est pas mal.
Sûrement.
Paul, merci en tout cas.
Salut les mecs.
Et à plus dans l'after. Allez, dans quelques instants, on est de retour. On conclura sur ce match. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à raconter à analyser sur les autres matchs du jour. Lyon face à Strasbourg, Saint-Etienne à Brest et tout le reste, bien sûr. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Ils sont là, Pierre Ducrot et Daniel Riolo, dans l'after ce soir jusqu'à minuit, messieurs, dames, pour analyser les matchs du jour. On va conclure sur Marseille-Lille avec Samy et ensuite on passe au dossier olympique lyonnais. Donc supporters lyonnais, on vous attend au 32-16 dès maintenant.
Je sens qu'on va laisser Daniel
sur Lyon.
Ouais, dérouler là-dessus.
Moi j'ai regardé le match attentivement, j'ai des choses à dire.
J'imagine que tu l'as regardé attentivement quand même.
Samy, bonsoir.
C'était ton match?
Oui, bonsoir l'after, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Ça va, homme du match pour toi?
Pour moi c'est Camara.
J'aime bien.
Il a sorti, encore un match pour moi XXL. Un poste de numéro 6, pour moi, il devrait y rester parce que, bon, lui, il veut. Il, apparemment, son poste de prédilection, c'est la défense. Mais pour moi, 6, il est parfait à ce poste.
Ouais, je suis d'accord. En plus, je le pensais pas si habile techniquement, mais je le trouve pas mal. Moi, je le trouve bien sur ses sorties de balles et tout. Moi, je le mettrais
en fait,
là.
En fait, c'est pas qu'il est pas habile. Enfin, qu'il était pas habile techniquement. Oui, oui.
Faut pas se raconter d'histoire.
C'est qu'il avait, pour avoir vu quasiment tous les matchs, et c'est qu'il avait pas les bonnes orientations dans ses prises de balles au départ. Il avait pas les bons réflexes en fait du poste. Et là, il progresse énormément là-dessus. Il prend des automatismes et techniquement, il est depuis toujours un joueur plutôt bon. Donc ça se voit. Ah, je suis d'accord.
Oui, techniquement, ça fait des années qu'il est. Enfin, depuis le début, on voyait quand même qu'il avait une certaine touche technique. Il était très bon à ce niveau-là.
Ouais.
Et là, il est en train de monter en puissance. Ça fait plaisir, surtout que c'est un jeune du club.
Oui, faut pas oublier qu'il est quand même encore jeune. Hein.
Oui, il a 20 ans, 21 ans.
Bah voilà, 20
quand
ans.
Quand il va rajouter, là il arrive techniquement à se retourner, à jouer un peu latéralement beaucoup, à, voilà, parfois à percer avec le ballon avec les pieds. Quand il va rajouter la passe qui casse une ligne, ça peut devenir effectivement quelque chose de très 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 bien au milieu. Ouais.
Je veux dire la passe Ligue des Champions, comme dirait.
Ah, la passe, ouais, non, mais la passe que tu trouves à ce poste-là, ouais, ouais. Mais non, mais à ce poste-là, elle est importante quand on te touche et que tu arrives à te retourner en une touche et la deuxième, elle fait mal. C'est important.
C'est juste une passe classique, mais en Ligue 1, c'est une passe qu'on n'a pas l'habitude de voir pour un milieu.
Non, tu sais quoi, Daniel, c'est pas vrai. Elle est pas si classique que ça, parce que tu sais pourquoi, j'en ai encore parlé, par exemple, encore en première ligue aussi cet après-midi, Arsenal Newcastle.
Oui. Pas de mecs comme ça dans tous les clubs.
Bah oui, mais la masse de clubs qu'on commente, qu'on voit jouer, c'est pas voilà, mais oui, mais c'est, y a pas que cela.
T'as des mecs qui sont bons techniquement.
Ah, bah bien sûr, si tu prends, bah oui, pas bien sûr.
L'OM, il est deuxième du classement de la Ligue 1, qui paraît-il est dans le top 5 des championnats européens, c'est pour ça.
Alors, Samy, un petit Casper quand même.
Je sais pas moi.
Un Casper, oui, c'est Benedetto. Malgré son but, une fois de plus, pour moi, on a joué le match encore à 10. On ne le trouvait pas. Et bon, là, heureusement qu'il a marqué ce but pour une fois. Là. Mais sinon, ouais, c'est mon Casper au niveau de l'OM, du côté de l'OM en tout cas.
Bon, et tu as inventé une nouvelle catégorie, le joueur historique.
C'est Mandanda. Il a sorti encore deux beaux arrêts là. Stanis, il est vraiment exceptionnel. Il fait plaisir. Il est redevenu à son niveau. Il est excellent. Franchement, il nous fait plaisir.
Je rappelle l'année dernière quand tout le monde lui tombait dessus parce qu'il était mauvais et que c'était une fin de carrière et qu'il était fini, etc. Non, faut jamais oublier que quand un collectif fonctionne pas. De quoi ?
Je faisais partie de ce mec-là qui le pensait.
Faut jamais oublier que quand un collectif fonctionne pas, c'est compliqué de s'en sortir individuellement aussi. Et l'année dernière, pour bien le connaître, je sais que dans ses yeux, il avait lâché comme tout le monde.
Il y a quelques déclarations de Villas-Boas en conférence de presse il y a quelques instants. Il dit Ake a changé le match quand il est rentré. Voilà, ce jeune joueur donc.
Tout à fait d'accord.
Voilà, c'est ce qu'il dit. On a avancé son et ça a fonctionné, ouais. Dit-il. Et puis Villas-Boas qui explique que Payet devrait être de retour contre Nantes le week-end prochain.
Très bien.
Ah, bonne nouvelle pour lui et l'OM.
Merci Samy.
J'aimerais juste rajouter un homme du match également avec Camara. Bon, c'est pas un joueur, mais c'est Villas-Boas. Avec le changement tactique qu'il a fait après le but lillois, après le pénalty raté même de Rongier, la rentrée d'Ake et le fait d'enlever Saka et de replacer Sarr qui est plus offensif que Saka à l'arrière droit. Ça a changé le match justement.
Et puis tiens, Villas-Boas qui dit que c'est lui-même qui avait choisi Rongier pour tirer le pénalty. Donc c'était bah voilà.
Tout à l'heure.
Ça n'a pas compris.
Il était pas
avant
possible
le match,
que ce soit autrement.
Bon, voilà. Donc il n'y a pas d'histoire à chercher.
T'as des commentateurs qui disent quand même c'est impossible que Benedetto tire pas. Enfin merde, l'entraîneur sert à quoi ?
T'as encore des commentateurs qui pensent que le numéro 9, enfin tous les numéros 9 doivent tirer les pénaltys déjà. C'est une hérésie complète. Voilà. L'exercice devant le but, enfin la situation devant le but dans le jeu et le pénalty, c'est deux exercices complètement différents. Donc ça peut être très bien d'un défenseur qui est à l'aise dans cet exercice. Ça peut être un milieu de terrain, ça peut être un attaquant, peu importe.
Quelque chose qui est décidé avant.
En plus,
avec un mec qui va le tirer et puis on en parle.
Ouais, bien sûr. Voilà. T'en as même deux ou trois qui sont choisis.
Changement de dossier, changement de match. On va parler de l'OL qui donc a fait égalité face à Strasbourg à partout cet après-midi. Petit point classement pour mesurer l'abysse qui sépare désormais Lyon du podium. 34 points pour les Lyonnais ce soir. Rennes en a 41. Voilà, qui est troisième. Donc, ça fait 7 points. Alors, vous allez me dire, 7 points, c'est pas non plus énorme. Enfin, vu ce qu'a montré Lyon.
Combien Monaco, qui a quand même eu un changement, une saison dont on a dit les pires choses, Monaco a dorénavant de l'avance sur l'OL.
Oui.
Moi, honnêtement.
4 points d'avance.
Moi, honnêtement, je suis dirigeant à l'OL, je ne dors pas la nuit. Visiblement, à Lyon, on s'en fout et on dort très bien. Et Jean-Michel Aulas, lui, carrément, c'est pas qu'il dort très bien, c'est qu'il dort comme un gros bébé, puisqu'il dit même, certes, match nul contre le sixième du championnat, qui est sur une spirale positive, donc c'est plutôt bien d'avoir fait match nul contre Strasbourg. OL, 12e match d'affilée tous les 4 jours, et on a repris un point à Rennes et à Lille. Et l'OM, qu'on vient d'éliminer en coupe, sera sûrement deuxième et qualifié en Ligue des Champions. Bon bah donc tout va bien à Lyon. Voilà. Et ce genre de salade, les Lyonnais doivent avaler depuis des années maintenant. Depuis des années. Et rien ne se passe. Il y a eu encore interview cette semaine d'Olas. Ça devait être dans l'équipe ou Figaro, où il parlait que c'était une interview business.
Oui.
Sur les résultats financiers.
L'interview est vide.
Ben, c'est génial, c'est super, c'est parfait. Mais ils ne demandent pas aux gens de venir au stade alors.
D'ailleurs, il n'y avait personne.
On voit leur le bilan comptable à la maison en recommandé. Voilà. Lisez le bilan comptable. Hop, voilà, avec une photo de Micheline, la comptable, tu vois, elle est là. Dit, je vous présente le bilan comptable. Tout va bien. Demande pas aux gens de venir au stade. En plus, c'est vrai, il y a de moins en moins de gens qui y vont au stade.
Non, mais là,
il faut vraiment que ce soit une grosse affiche.
Je me suis fait la réflexion un dimanche après-midi.
Parce que ça, c'est un autre truc.
Peu importe, tu peux avoir un peu plus de monde que ça. Non, mais peu importe, tu remplis pas tout, mais tu peux avoir plus de monde que cet après-midi. Un dimanche après-midi, qu'est-ce qui empêche les gens d'y aller s'ils avaient envie d'y aller?
Non, mais rien, cette année perd tellement en attractivité qu'ils font même le match de 15h. Généralement, le match de 15h, c'est pas bon signe quand tu le fais. Ah, même cette année, ils ont même fait un match à 20h, un samedi soir. C'est encore moins bon signe quand tu te retrouves à jouer un match à 20h un samedi soir. Mais ils continuent de dire que tout va bien, les résultats sont... Oui, le résultat comptable...
Non, les contenus des matchs...
Les matchs sont inquiétants, mais c'est surtout que c'est une équipe qui a des moyens financiers largement supérieurs aux autres dans notre
Ligue 1. Bien sûr.
Bon, à part Paris et Monaco, évidemment. Et ils sont quoi? 9e? Non, même pas. Ils sont 9e ou moins bien maintenant?
Ils sont 11e.
Ah oui, voilà. Ils sont
11e,
les Lyonnais. Ils sont même plus dans la partie gauche.
Parlons quand même un mot du match.
Le match, il est
comme quasiment tous les matchs de Lyon ces derniers temps. C'est-à-dire que tu dépends, à un moment donné, d'un beau geste pour marquer un but. Tu dépends de ça.
Quand j'ai vu la passe en retrait de Marçal, j'ai dit, mais c'est une guignolade ou quoi? Ils sont sérieux, les gars, de faire ça?
Il y a effectivement des petites choses comme ça qui peuvent te
il aurait pu faire un effort et la cadrer ça passe mais
au-delà de ces détails là c'est surtout le contenu général quoi. Tu sens qu'il va rien se passer et que le match peut tourner dans un sens
à tel point que Strasbourg repart avec des regrets.
Eh bien sûr, à la fin de match, c'est normal, mais pas qu'en termes d'occasion, c'est ça le pire, c'est même en termes de contenu. Et moi, je me rappelle la très bonne série de résultats de Lyon au début de l'année 2020, où ils ont enchaîné quelques matchs en défaite avec des nuls, des victoires. On en parlait et tout le monde en a parlé.
C'était pas bon.
Tout le monde en a parlé. Oui, mais les médias en général étaient en train de dire Lyon va revenir, ça y est, c'est sûr, etc.
Ça, tu fais bien de le dire. On pense tous que.
Sauf que.
Ils sont capables jusqu'au bout parce qu'il y a cette supériorité d'effectifs.
Je pense qu'ils sont pas capables. Le contenu que tu vois des matchs depuis le début janvier 2020 et même le reste d'ailleurs.
Quand tu les vois là.
Tu peux pas.
Ils disent toujours on est encore en course dans quatre compétitions, mais enfin ils vont gagner quoi?
Non mais le
fait c'est compliqué quand même parce que là
être en course c'est bien mais
c'est ça fait qu'on dise à chaque fois et qu'on croit à la remontée c'est parce que d'abord notre Ligue 1 est quand même toujours très ouverte et tu te dis toujours que déjà est-ce qu'on s'attendait à ce que il se passe ça à Rennes par exemple, un président qui part et qui va mettre le club probablement un peu dans la merde. Déjà qu'on n'était pas envisagé, mais ça j'avais même dit et avoué, et je pense qu'on peut tous l'avouer que sur Monaco on a tous dit n'importe quoi.
Ah ouais, je les voyais pas là.
Ils peuvent même peut-être revenir maintenant. Donc cette Ligue 1 elle est tellement surprenante que forcément tu penses que l'équipe qui a le plus de moyens et le plus de joueurs et l'effectif
va finir par remonter.
Chaque année.
Peut-être qu'on se plante encore ou peut-être que je me plante encore, mais je les vois pas du tout remonter quoi. Ça va être compliqué. Voilà. Sur quoi s'appuyer pour ça, pour avoir les garanties de remonter honnêtement.
Au-delà de savoir Pierre si on se plante ou pas, au bout d'un moment.
On peut juste
se contenter de regarder ce qu'on a sous les yeux et ce qu'on a sous les yeux. Tu vois, tout à l'heure on parlait de l'OM. Oui, on peut toujours parler l'OM et si avec cette équipe-là, parce que beaucoup de supporters de l'OM font ça, avec cette équipe-là, est-ce qu'on va aller en Ligue des Champions? Qu'est-ce qu'on va faire, machin? Je dis toujours, mais les gars, pensez pas à ça. Contentons-nous de voir là ce qui se passe et sous nos yeux, on voit un Marseille, comme tu l'as dit, cohérent, combatif, déterminé, avec un super entraîneur. Et de la même façon, Lyon, est-ce qu'ils vont réussir à remonter? À un moment, ils peuvent faire 5 victoires de suite au mois de mars, avril, quand ils auront plus la Ligue des Champions. Et puis peut-être, pourquoi pas remonter? Parce que Rennes peut reculer, parce que Lille peut se... Tout, notre Ligue 1, elle est comme ça. Mais ce que tu vois là, de toute façon, Lyon n'a pas le droit de te proposer ça. Avec ce qu'ils ont sous la main, joueurs et tout, mais ils ont pris un entraîneur qui est franchement d'une nullité affligeante. Cette semaine, on peut pas gagner tous les matchs 3-0. Mais contre qui t'as gagné 3-0? Mais où est-ce que tu l'as vu un jour? Cette semaine, il a dit, pour répondre aux critiques sur le jeu de l'OL, il fait, qu'est-ce que vous croyez? On va pas gagner 3-0 contre tout le monde. Enfin, à moins que j'ai rêvé que c'était une phrase fake.
Non, il l'a dit.
De nos jours, tout peut arriver là-dessus. Mais bon, voilà. Je comprends pas.
Il a gagné 7-0 à Bourg-en-Bresse.
Ah, mais ça doit être pour ça.
Et il a gagné 4-0 à Nîmes.
Ouais, ça devait être ça. C'est là, en fait, que je me suis
envoyé. Voilà. Nîmes, ça remonte un peu, non?
Ça remonte, ouais, c'était en décembre.
Ah oui, quand même.
Ouais, sinon, c'est tout. Hein. Mm. Puis avant, c'était Silvino, c'était pas lui.
Mais bon, il dit on va pas gagner 3-0 contre tout le monde.
Bah oui, bon, alors attends, on va donner la parole aux Lyonnais un peu. Ludovic est avec nous au 32-16. Salut Ludovic.
Bonsoir les gars.
Bonsoir Ludovic.
Bon, ce que t'entends là dans l'after à propos de l'OL, t'es d'accord ou pas?
Ben, je peux raccrocher, vous avez tout dit les gars.
Bon, non. Rajoute un truc quand même.
Oui, bah oui, je vais pas me prier. Donc en fait, ouais, vous avez tout dit. Je pense aujourd'hui, il faut qu'on arrête de nous raconter et qu'on se raconte qu'on peut aller encore chercher ce podium. Là, je crois que, enfin, je vais être un peu sévère, mais moi, depuis la défaite à Marseille, j'ai tiré un rideau sur la saison. Puis la défaite contre Lille, j'ai tiré un rideau sur le podium. Cette saison, c'est un chemin de croix. Aujourd'hui, ma fin de saison, elle tient à quoi? Elle tient au huitième de finale des champions contre la Juve.
Et la finale de la Coupe de la Ligue?
À la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, la demi-finale de Coupe de France, le match contre Marseille en championnat et le derby en championnat. Pour le reste, voilà, aujourd'hui, le rideau il est tiré. On a encore vu un match lamentable ce soir. On voit des compositions d'équipes que je ne comprends pas, pour faire de la démagogie, Rudy Garcia dans le groupe, Guimaraes aujourd'hui, il écarte un mec comme Jean Lucas et il titularise un mec comme Thiago Mendes, qui met pas un pied devant l'autre, qui est catastrophique. Vous vous imaginez, la magie du football est tellement extraordinaire. Aujourd'hui, on marque un but sur un centre de Maxwell Cornet et une tête de Traoré.
Et il est magnifique. Donc, le but d'ailleurs, il est magnifique.
Mais voilà, il est magnifique, mais il vient juste des deux personnes que je viens de vous donner. Comme quoi, des fois, il se passe des choses improbables. Mais autrement, pour le reste, c'est catastrophique. Les remontadas, en fait, quand on prend le recul, elles viennent d'un autre contexte. Elles viennent d'un contexte où parfois, on se disait « Ah, on n'a pas de bol. Ah, il y a des décisions arbitrales qui sont pas dans notre sens. » Il y a un poteau, mais il y avait du jeu, il y avait un fond, on y croyait, il y avait un truc, il y avait un allant qui pouvait nous relancer. Et là, qui peut oser?
T'en veux à qui là? À Rudy Garcia, au joueur? Quel est ton, si tu devais montrer le doigt quelqu'un en premier, non, c'est qui?
Mais c'est une saison bidon en tous sens. À mon sens, déjà d'une, on a potentiellement, on avait pris la bonne décision de partir sur Domel Baz. Avec Juninho et Silvino. Juninho, on le voit, bah ça y est, il commence à attirer des joueurs, il potentiellement prend ses marques petit à petit. Silvino, son éviction, elle vient de pas grand-chose, hein. Elle vient d'un but encaissé dans le temps additionnel à Brest, dans le temps additionnel à Amiens, dans le temps additionnel dans le derby, contre le Paris Saint-Germain aussi. Potentiellement, si on capte ces 6 points, Silvino, il n'est pas viré. Et la saison, elle peut être différemment. Et les joueurs, il a peut-être mis une exigence qui était trop importante par rapport à d'autres entraîneurs. Les joueurs n'ont pas suivi. Et après, derrière, c'est le marasme. Derrière, mais la chose la plus absurde, c'est nommer Rudy Garcia. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour dire comment on peut nommer l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.
Mais ça, je pense que les supporters de l'OL, t'en as pas un qui a cru que c'était une bonne décision.
Mais moi, je discute avec plein de gens. Faut être lucide, quoi. On essaye de se leurrer sur 2-3 décisions, mais c'est complètement absurde, quoi. Nommer à la limite Jocelyn Gourvennec, qui était en limite dans la shortlist, quoi. La personne neutre. Enfin, après, tout s'enquille mal, quoi. Donc, aujourd'hui, oui, ce qui nous sauve, c'est être en lice dans les deux coupes nationales, jouer ce huitième de finale.
Si tu joues comme cet après-midi, tu gagneras rien.
Ah ben, sur un coup de bol, on ne sait pas, JP.
mais tu ne peux pas dépendre que de ça, justement.
Tu as vu le PSG Lyon de la semaine dernière. C'est-à-dire, sur un coup de bol, c'est le seul coup de bol, c'est que le PSG soit encore en Ligue des Champions et soit la tête comme ce week-end à faire tourner exagérément son équipe pour réussir quelque chose dans les deux matchs que tu vas devoir rejouer contre eux. Daniel, et t'as joué deux matchs contre le PSG, enfin t'existes pas, quoi.
Oui, Daniel, le coup de bol, il est que la finale, elle tombe 4 jours avant un quart de finale de Ligue des Champions et on ne sait pas si le Paris Saint-Germain ne jouera pas ce quart de finale.
Mais c'est ce que je viens de te dire, je suis d'accord avec toi.
Voilà.
C'est ça, et encore que. Moi, je n'y crois pas non plus.
Alors la demi-finale du 24, la demi-finale du 3 mars, je ne sais, enfin je vois pas le calendrier, j'ai pas le calendrier en tête, hein. Mais bon, mais
elle sera peut-être avant un quart de finale.
Avant le retour.
Elle sera avant le retour.
On a la chance que ça soit au Groupama Stadium, qu'on retrouve le PSG, que ça peut être une belle affiche. Comme vous l'avez dit, que ça fasse venir les gens au stade, parce que de toute manière, il y aura les footiques qui voudront voir Mbappé et Neymar. Donc voilà.
Alors Ludovic, tiens, bouge pas, on va te faire écouter Rudy Garcia. Une petite analyse.
L'analyse de Rudy Garcia, faut pas la rater.
Petite analyse made in Rudy Garcia, tout de suite.
Donc mathématiquement c'est possible, il faudra faire en sorte de revenir, mais si on gagne pas, ça va être compliqué. Donc voilà, il faut d'abord gagner nos matchs, on n'a pas été capable de le faire aujourd'hui. Je sais pas, faudra que ça change. Voilà, aujourd'hui je me suis bien gardé de parler d'enjeux avant le match. Oui, s'il faut leur rappeler effectivement combien il faut être motivé, déterminé et faire beaucoup mieux pour pouvoir gagner les matchs, on le fera bien évidemment, puis ça va venir vite puisque c'est déjà vendredi prochain.
Ah bon, ça va. Hein. Franchement, on est dans en analyse là. Hein. Je pense que les supporters de l'OL.
Ludovic, merci en tout cas.
Pour revenir, il faudra gagner les matchs.
Allez, bonne
soirée
à vous. Hein.
Salut Ludovic.
En même temps, Ludovic, est-ce que tu crois toi aussi que pour revenir, il faudra gagner des matchs?
Alors moi, comme je dis, je faisais un WhatsApp à mes potes cet après-midi. J'étais dans le vestiaire de l'OL cet après-midi. J'ai assisté à la coach, à la causerie du coach. Qui disait écoutez ce soir non je plaisante qui disait les gars ce soir si on marque un but et qu'on n'en prend pas on prend les 3 points.
Ouais voilà c'est ça.
Ça c'est de la causerie. Merci Ludo, à bientôt.
On va gagner à Metz un vendredi soir.
À Metz, ils sont pas mal à domicile en plus.
Ouais. Non, mais ça me fait penser à une équipe et un club qui pense vraiment que c'est pas encore urgent quoi, qu'ils ont le temps. Mais j'ai du mal, j'ai du mal à le croire, quoi. Mais c'est un peu ça, quoi. Ouais. Il a pas encore rappelé l'enjeu des matchs à ses joueurs. Ouais. Parce que lui pense que c'est pas nécessaire, qu'ils en sont conscients et qu'il y a encore le temps, sûrement, je sais pas.
Anthony est là, supporter lyonnais lui aussi. Salut Anthony.
Salut, bonsoir.
Bon, qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ce que nous a dit Ludovic il y a quelques instants?
Eh ben, moi, je trouve que Ludo, déjà, je trouve que, tu sais, il parle de chance, il parle de coupe, il parle de. Moi, je trouve qu'il n'y a plus de chance, il n'y a plus de coupe. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. L'équipe, elle dégage rien. L'entraîneur, quand je vois sa tête avec l'écusson de l'OL juste en dessous, ça me déchire le cœur et ça me déchire les yeux. Et le président Las, je pense que c'est un grand monsieur qui a fait des grandes choses. Mais je pense que voilà, quoi. C'est plus l'homme qu'il nous faut, quoi. Il prend des décisions, il nous parle de chiffres, il nous parle des féminines, il nous parle de la Youth League, il nous parle de 14 millions de trucs, regardez à droite, mais voilà, pas à gauche surtout.
Ah non, attends, les comptes se portent bien, hein. Vous avez acheté le club de Rapido quand même. Hein.
Bah ouais, bah
excuse-moi, mais en fait. ça vaut une place sur le podium. Hein.
Ça ouais, me rappelle une banderole célèbre des Lyonnais qui disait OL coiffure, OL taxi, OL pizza, à quand OL football.
Ouais, bah
attends, vous avez quand même les bonnes nouvelles. Vous avez le club de Rapinoe, ça quand même c'est pas rien.
Ouais.
L'Asvel.
Tony Parker mange régulièrement avec Jean-Michel Aulas. Ça c'est quand même pas rien.
Sur Marquinhos depuis qu'il est là, il gagne beaucoup plus l'OL.
Ah mais attends, ouais. Il doit se faire des bons restos. Je pense que c'est supporter de Lyon pour eux, c'est important de savoir que les bons restos lyonnais les accueillent régulièrement.
Mais quand est-ce que Parker, Michel Aulas, il va se réveiller et il va se dire mais il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai l'impression que même lui, il n'a plus la réalité en face.
Et sinon, t'as pas l'impression que Juninho, depuis qu'il est arrivé, vous avez pas remarqué, il a pris 10 ans le gars.
Juninho,
son arrivée
Juninho,
au mois de juillet.
Parle même pas,
bon, déjà, effectivement, bon.
Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on entend très, très peu.
Il a œuvré à l'arrivée de Guimarães, il a pesé de tout son poids. Sinon, à côté de ça, c'est vrai qu'il a complètement disparu. Mais quand je le vois en tribune, bon, non seulement on a vraiment l'impression qu'il s'ennuie complètement, mais clairement, il a pris 10 ans le gars. Cet après-midi, je regardais, je disais putain, sur son visage, tu disais qu'est-ce que je suis venu foutre là.
Bon, Anthony.
Petit papy,
en même temps, pendant les matchs, quand tu le filmes, il peut pas non plus faire autre chose que.
Pour conclure, Anthony, vas-y.
Je me dis que les joueurs de l'OL,
s'il vous plaît.
Ah
non, mais
Anthony, vas-y. Ça fait un certain temps que je regarde les joueurs de Lyon. J'ai l'impression qu'ils ont pas envie de jouer au foot. Ils ont pas cette détermination. Ils ont rien du tout. Et plus les saisons passent. Et plus j'ai l'impression que c'est des bébés qu'on cajole et quand il faut sortir les doigts, et ben ces mecs, ils y arrivent pas. Ils vont faire un gros match contre Paris et après on va se manger tous les petits, ils vont venir et ils vont nous agresser chez nous. c'est, je sais pas, j'ai l'impression que ces mecs-là, ils veulent pas.
Alors, parce qu'il y a eu, enfin, ça dure depuis des années, donc pourquoi autant de joueurs qui seraient passés à Lyon, seraient tombés dans l'excès?
Enfin, je vous livre le tweet.
J'ai du mal à me dire, sur une année ou deux, oui, avec certains, pourquoi pas, mais là, sur 5-6 ans, avec pas mal de joueurs qui ont défilé, j'ai du mal à le croire, quoi.
Je vous livre le tweet de l'après-midi de Jean-Michel Aulas après le match. Hein. Il dit, certes, match nul contre le 6ème du championnat qui est sur une spirale positive.
Je l'ai déjà lu, celui-là.
Non, mais t'as lu la suite.
Si, la suite.
OL, 12e match d'affilée tous les 4 jours. Et en fait, on reprend un point à Rennes et à Lille.
Tu ne devais pas écouter tout à l'heure.
Non, tu l'as pas dit ça.
Si.
Il a dit ça.
Si, il a
jusqu'au bout.
Oui, oui.
Et non, mais je voulais rajouter, je me suis dit, il n'est pas dit la fin.
Non, c'est parce que tu m'as oublié, je reviens de vacances, tu as oublié que j'existais.
Oui, d'ailleurs, on me dit, tiens, c'est bizarre, je croyais que Daniel était sur un paquebot bloqué à cause du coronavirus. Non, non, il est bien là.
Non, pas de voyage de ce genre, pas de paquebot, rien du tout, tout va bien. Il n'y a aucun.
Daniel, il a arrêté Costa Croisière depuis quelques temps.
Prends une barque individuelle.
Allez, dans quelques instants, Saint-Etienne et l'Italie au programme. Simone Rovira va nous rejoindre, bien sûr. Plus Saint-Etienne qui perd à Brest. Supporters des Verts, on vous attend. Saint-Etienne est à 2 points du 18e ce soir. On me dit, oui, vous ne parlez que des choses qui vont mal. Bah oui, c'est le principe du journalisme. Hein. C'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure.
Non, on peut. C'est des conneries, ça, parce que pendant 20 minutes, on a parlé de l'OM qui va très bien.
Oui, c'est vrai, après tout.
Excusez-moi, mais je comprends pas bien.
Mais principalement, quand même, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure.
Dans cette journée, aujourd'hui, donc on a eu Rennes.
Bah, Brest qui fait un très beau match. Mais...
Non, mais les équipes.
C'est vrai, on pourrait souligner ça.
On va faire 5 minutes sur Charbonnier, le retour de Charbonnier.
Lyon doit gagner contre Strasbourg et gagner pas, t'es obligé d'en parler. Saint-Etienne, vu les ambitions début de saison et l'effectif. Qui se prennent une tarte comme ça contre Brest, c'est pas normal, donc faut en parler, ça va pas bien. Et Rennes, son actualité, c'est club sur le podium, qui perd à Reims, sur un champ de patates, mais c'est pas grave parce que c'est normal, on n'a pas eu le temps de préparer le terrain à cause des féminines de l'été dernier, tout ça, on est au courant. Donc oui, il y a plus de choses qui vont pas bien dans notre Ligue 1 qui vont bien, mais ça, nous, on n'y peut rien. C'est pas nous qui faisons ça. Hein.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Ils sont là, Daniel Riolo et Pierre Ducrot, messieurs dames. Mais oui, l'after est là jusqu'à minuit pour parler des trucs qui ne vont pas bien. Notamment de Saint-Etienne, Mickaël est avec nous. Mickaël, bonsoir.
Bonsoir les gars.
Bonsoir Mickaël.
Bon, alors, si on s'arrête juste à la première mi-temps.
Oui.
T'as vu la mi-temps là, des Verts là, et c'était un cataclysme.
J'allais en venir, c'est vraiment, franchement l'état d'esprit de l'équipe, je pense qu'ils y sont plus.
Donc il y avait 3-0 à la mi-temps pour Brest, hein, je le rappelle.
Ah oui, bien sûr, 3-0 à la mi-temps, mais franchement, je sais pas s'ils ont conscience de la situation, je me demande. Je pense qu'ils s'en foutent surtout de la situation.
Hein.
Pardon ?
Je pense qu'ils s'en foutent, moi, de la situation, la plupart.
Ah oui, ils s'en foutent, bien sûr.
Mais qui à Saint-Etienne se fout de quoi que ce soit, de toute façon ?
Mais j'ai l'impression que personne, il y a silence radio en fait, que ce soit la direction
La direction n'existe pas.
Voilà,
les supporters sont fâchés et dès qu'ils peuvent, ils mettent encore plus de bâtons dans les roues que le club en a déjà.
T'as quand même un mec sur le banc
qui vient à Geoffroy Guichard.
T'as quand même un mec sur le banc qui affiche dans ses interviews en tout cas des trucs positifs et des constats.
De moins en moins. Mais il fait des constats pour la Ligue 1, le football français dans son ensemble.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire.
Interviews pour nous. Ces interviews, elles sont pour nous.
Il nous régale dans ses interviews, mais après, on voit pas trop sur le terrain la concrétisation de ce qu'il veut.
Pour dire à l'after, vous avez raison depuis 10 ans, mais ça n'aide pas Saint-Etienne, ça.
Moi, je pense que Claude Puel, il est complètement perdu aussi.
Évidemment qu'il est perdu.
Non, mais Puel, il est aussi très désarçonné par ce qu'il voit dans le vestiaire et le comportement de ses joueurs. Alors après, je sais pas quelle est sa marge de manœuvre tout pour que ça change. Peut-être qu'il n'y arrive pas, en fait.
Je pense qu'il est perdu. De toute façon, c'est mort. Il est en rupture avec les peignoirs claquettes. Et qu'il espère que à la
fin. Qui fait de moins en moins jouer, je te signale. Hein.
Oui,
Debuchy,
je pense qu'il est en rupture avec une partie du vestiaire et qu'il y en a une qui serait prête à le suivre, mais que pour ça, il ne faut plus être sous l'influence.
En gros, il faut faire le ménage, parce que tant que les mecs sont là, c'est compliqué.
Donc en gros, il faut se sauver cette année. Et le ménage, il faut faire un gros ménage.
Il y a des contrats. Il y a des prêtés, mais tu as des contrats. Il y a des contrats plus savoir qu'en faire à Saint-Etienne.
Ouais, c'est pour ça que je te dis que moi je suis inquiet pour Saint-Etienne.
Mais inquiet à quel point
Le souci.
En dessous, c'est.
Toulouse,
il y a une descendre. Toulouse, c'est mort. Il y a une seule place.
Ouais, mais est-ce que Saint-Etienne finalement n'est pas l'équipe la moins préparée?
Attention, pas de tirer pour ça.
Après, c'est que quand tu vois qu'Amiens est 19e et que chaque match,
il les joue Amiens joue bien, comme des morts de faim.
Amiens, c'est désespérant. Moi, j'adorerais qu'ils se sauvent parce que ce que fait Lucas Elsner.
Je suis d'accord.
Tu peux élargir parce que Nîmes, ils se battent comme des chiens Ils sont là. Dijon à domicile, faut les battre.
C'est quasiment imbattable, mis à part le PSG.
Après, malheureusement, à l'extérieur, ils n'arrivent pas.
Et Amiens, t'as quand même 7 points. 7 points dans le classement, c'est beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup, 7 points dans le classement.
Mickaël, un truc à rajouter ?
Oui, oui, bien sûr. En fait, l'équipe, elle n'est pas préparée du tout à se sauver. Alors, j'ai vu aujourd'hui, c'était tellement criant. En fait, la première mi-temps, franchement, c'était lamentable. Lamentable. Moi, je suis un peu sceptique quand même vis-à-vis de sauver, parce que je pense que les équipes qui sont autour de Saint-Etienne, que ce soit Dijon, Nîmes ou même Amiens, ils sont préparés, eux, à lutter. Ils ont un état d'esprit qui sera affiché, qui est bien affiché par rapport à nous.
Mais il y a que 10 points à prendre.
Oui, bien sûr. Mais contre qui on va gagner? Je me demande. Ah, franchement, avec cet état d'esprit, je sais pas contre qui on pourrait gagner. Mais franchement, même en Reims, le dimanche prochain, c'est pas gagné. Vous voyez ce que je veux dire?
Et dans ce marasme, tu peux te qualifier pour la finale de la Coupe de France?
Oui, c'est ça. Mais bon, après, je pense que c'est quand même la demi-finale de Coupe de France, un peu du trompe-l'œil, en fait. Du trompe-l'œil, parce que voilà, on a eu un parcours assez.
Si t'as un petit Lyon-Saint-Etienne en finale de Coupe, je pense que tu vas être à bloc, Mickaël.
Si tu te maintiens avec gagnes celle-là, ça va te sauver ta saison, quand même.
Ouais. Bien sûr. Mais bon, si on sauve et on gagne la Coupe de France, ça serait magnifique. Mais bon, et on va pas trop en demander. Je pense que cette année, franchement, c'est catastrophique. Vraiment, la saison est mal partie dès le départ, en fait. On a mis les mauvaises personnes au mauvais endroit. Et voilà. Et du coup, là, on rame toute la saison. Et il reste que, comme il dit Daniel, il reste quelques points à prendre encore. Il faudra les prendre.
Il y a une dizaine de points à aller chercher.
Merci Mickaël.
Claude Puel, en tout cas, admis.
Merci Mickaël.
Je jouais dorénavant le maintien.
Ouais. Bah oui. Les gars, vous voulez dire à Modren qui perd à Reims?
Très mauvais match. Mais dans le contenu, j'ai pas reconnu Rennes, même les matchs que Rennes perdait à l'époque, mais où il y avait toujours un petit peu plus que. Voilà, qu'une simple défaite.
De ce match qui mérite pas beaucoup de commentaires, parce qu'encore une
là,
fois.
Là, c'était compliqué.
C'était affreux, et moi, je peux plus voir les matchs sur ces pelouses-là.
Mais le terrain n'aide pas,
C'est terrible. Mais c'est surtout, la tête de Julien Stéphan. Parce que, ce qui s'est passé, c'était donc vendredi dernier. Vendredi dernier. Il va devoir le porter sur ses épaules maintenant, à 100%. Parce qu'en plus, il assume.
Clairement. Non, mais alors en fait, bon, Daniel, il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on a donnés qui font que. Alors, il y a eu l'histoire Stéphan, mais il y a aussi le fait que.
J'ai pas entendu exactement
que
ça.
Que les temps s'est séparé de personnes historiques dans le club qui étaient proches des Pinot.
Je pense pas que le coach soit.
C'est pas que lié à une inimitié Stéphan les temps, le départ
de Il n'empêche que Julien Stéphan a également assumé une part dans la rupture, que dorénavant, il n'est.
Si je peux préciser, Daniel, je pense pas qu'il ait assumé le fait qu'il veuille se séparer de son président. Il a juste assumé que les relations n'étaient pas les meilleures du monde.
Déjà, il faut pas dire les relations n'étaient pas les meilleures du monde. Ouais, les relations étaient horribles.
N'étaient pas harmonieuses. Okay. Non, mais c'est ce qu'il a dit. N'étaient pas harmonieuses. Ce sont ses mots.
Ça s'appelle une façon de parler. Donc, les relations étaient pourries aussi bien avec le président et elles le sont encore avec Sylvain Armand, dont on sait pas de combien est la durée de vie.
Sauf que les deux, malgré ces relations-là, arrivaient à travailler professionnellement et sérieusement et en faisant des bonnes choses.
Il n'empêche que la relation a été tranchée en faveur de Julien Stéphan, qui en plus a assumé la rupture quand il dit quelque chose qui est faux, à savoir que le président lui avait donné 3 matchs pour se sauver, c'est faux. Donc en plus, il a menti.
Il l'a dit ça?
Lui, il a dit.
Oui, Stéphan a dit ça.
Julien Stéphan a dit ça. Donc c'est faux. Donc Julien Stéphan a menti. Il assume donc la rupture, parce que le côté coulisses de « ils ont viré 2-3 personnes, machin et tout », ça c'est décision Pinot. Mais pour ce qui nous concerne, nous, qu'il ne supporte pas l'autorité de son président ou l'omniprésence ou le… Déjà, pour un jeune entraîneur, déjà je trouve que c'est bizarre. Moi, de toute façon, j'ai toujours considéré, je l'ai dit dès le début…
Non, mais les deux sont liés.
Sa personnalité, je veux bien qu'il assume. Et s'il s'en sort, vraiment, bravo, parce qu'avoir un boulard aussi surdimensionné à son âge et avec aussi peu d'expérience, je dis, si t'es Mourinho au début de ta carrière, vraiment, bravo si tu t'en sors. Il s'appelle Julien Stéphan. S'il arrive à garder Rennes sur le podium jusqu'au bout, vraiment, je dis bravo. Moi, j'ai vu sa tête aujourd'hui.
Pour ça, je pense pas qu'il était ravi de voir Olivier Létang se faire débarquer.
Moi, je pense que oui, il était ravi de voir se faire dégager parce qu'il l'a souhaité. On lui a demandé. Moi, je peux dire, j'ai vu sa tête aujourd'hui, après une défaite à Reims, il est encore sur le podium ce soir. Je pense qu'il est très fatigué. Il avait des cernes. C'est même pas possible tellement il doit être en stress. Bon, il a une personnalité qui est à vouloir se mettre en avant, à vouloir avoir cet énorme boulard. Faut voir. S'il arrive à maintenir jusqu'au bout Rennes sur le podium, je dis bravo, il est de la trempe des entraîneurs qui ont de l'avenir.
Allez, on enchaîne.
Il a pris un très très gros risque.
Dans un instant, on accueille Simone et Rovera. Mais d'abord, je vous
rappelle. Si, il avait dit
deux petites infos, les gars.
Il n'était pas viré, les temps.
Deux petites infos.
Je suis sûr que ce soit lui, moi.
S'il vous plaît, Ole Nicole viré, lui, pour de bon, à Orléans, dernier de Ligue 2, remplacé par Cyril Carrière, actuel entraîneur de l'équipe de National 3. Et puis l'histoire de Moussa Marega, aujourd'hui, il y avait un match entre Guimarães et Porto, gagné par Porto d'ailleurs. Moussa Marega, donc insulte raciste à son encontre, qui vient des tribunes des supporters de Guimarães. Il a joué à Guimarães d'ailleurs, Moussa Marega, ouais, avant de revenir à Porto, et il avait été prêté là-bas. Et Moussa Marega décide de quitter le terrain. Alors on vous montre les images là sur RMC Sport News, parce que bon, c'est nous qui diffusions ce match-là. Tout le monde essaie de le dissuader, Conceição, tout le monde, et lui veut rien savoir. Il dit non, je me casse, je sors.
Le cas, c'est peut-être ceux qui essayent de le dissuader d'ailleurs.
Les images sont assez terribles parce qu'il
met 10 minutes à sortir parce que enfin il y en a plein qui le retiennent et qui veulent pas le laisser sortir.
Oui, Conceição lui crie dessus, c'est une honte que tu sortes. Bon, faut voir ce que le gars a subi.
Il lui dit ça.
Voilà, et l'arbitre lui a mis un jaune en plus. Donc, affaire à suivre au Portugal aujourd'hui. C'est dans ce genre d'affaires de racisme, c'est très très rare que les joueurs aillent au bout, hein, justement là. On va voir ce qui se passe avec Marega, mais c'est vrai que la réaction est de ses coéquipiers et de son coach.
C'est ce qui est le plus hallucinant, parce que
des cons
racistes dans les stades, malheureusement, il y en a, il y en aura toujours, malheureusement. Mais alors les coéquipiers qui
alors le c'est une honte de
minutes, Sao, c'est assez impressionnant.
Il le crie. Alors est-ce que c'est à l'endroit des supporters qui avaient eu les cris racistes sur Marega ou des arbitres ou de Marega? C'est flou, hein. On a vu les images.
C'est les images où tu le vois parler dans la tribune.
Oui, mais c'est aussi dans la direction de Marega en fait, donc c'est bizarre. Donc bon, ça nécessite
je crois qu'il parle aux tribunes.
Est-ce que si t'es entraîneur d'une équipe et que tu te retrouves dans cette
tu dis à tout le monde de sortir.
C'est la question que je me suis posée. Est-ce que si je suis entraîneur, j'ai un joueur, moi, il se fait insulter comme ça et il a envie de sortir, qu'est-ce que vous lui dites?
Moi je parle même pas
au joueur, et si c'est un joueur qui craque et qui veut sortir,
Moi je lui dis reste.
Je dis on sort tous avec lui, tu n'as pas à t'effacer.
Tu n'as pas
à t'effacer
devant la connerie.
Ouais, mais ça fait 15 ans, 20 ans qu'on fait ça.
Ouais,
Daniel.
Non, mais je sais bien.
Et ça marche pas, ils s'en foutent dans les tribunes,
chacun
en fait.
Chacun réagit comme
il
veut.
Oui, bien sûr.
Moi, je lui dis, tu ne dois pas t'effacer face à ça. Montre-leur, ou ne leur montre pas même, ne fais pas attention.
Allez, Daniel, le temps.
C'est dur, je pense, de fermer toujours les oreilles, et je pense que c'est à un moment donné, tu peux plus faire, quoi.
Mais je sais que c'est dur, mais est-ce que pour autant tu dois fuir comme signe de protestation?
Il fuit pas.
Tiens, tweet de Marega ce soir.
Il veut plus partager un match de foot avec ces gens-là.
Marega dit, je voudrais dire à ces idiots qui viennent au stade pour faire des cris racistes, allez vous faire foutre, Marega, et il dit, et je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir défendu et de m'avoir donné un carton jaune.
C'est la partie complètement con. L'arbitre qui fait ça, c'est complètement con.
Parce que c'est le règlement.
Allez, top. Simone Rovera nous attend, les gars. Il faut lui accorder du temps. Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
C'était le grand match en Italie, le deuxième contre le troisième, et la Lazio a gagné et revient à un point de la Juve. Peut-être un basculement dans la saison, là.
C'est sûr que c'est un moment déterminant dans la saison, parce que s'il y avait une équipe qui devait prendre vraiment conscience de pouvoir lutter pour les titres, c'est la Lazio. Simone Inzaghi, avant ces matchs, avait commencé à ne plus se cacher en disant, si on est arrivé jusqu'ici, on peut lutter pour les titres. Et ce soir, après avoir gagné face à la Juve en championnat, il gagne aussi face à l'Inter. Depuis les matchs allés face à l'Inter, la Lazio n'a plus perdu. Donc, il enchaîne une série extraordinaire de 19 matchs. Aujourd'hui, ils sont deuxième en point de la Juve. Ils ont gagné un match renversant l'Inter, qui menait 1-0 avec le but de Ashley Young à la fin de la première mi-temps. Et c'était pas un match extraordinaire. C'était très tactique, très fermé. Imaginez, avec deux entraîneurs qui utilisaient 3-5-2, donc deux équipes qui se ressemblent beaucoup. C'était pas simple de trouver des espaces. La Lazio a été plus déterminé dans les moments décisifs. Il a marqué deux buts. L'Inter n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps, mais la défense de Lazio était extraordinaire. C'était un match, comme j'ai dit, très tactique. Peut-être pas beaucoup de feux d'artifice, mais c'était les matchs qu'il fallait pas perdre. Et s'il y a l'équipe qui a perdu, c'est l'Inter. Et ça risque de faire un peu mal, même si avec 14 matchs encore à jouer, tout reste ouvert. La Juve continue à gagner sans jouer bien. La Lazio vit vraiment sur les ailes des enthousiasmes une saison extraordinaire. Et l'Inter, quand même, a perdu, mais reste 3 points derrière la Juve. Et dans la confrontation directe, avec la victoire 1-0 de l'aller, quand même, reste devant à la Lazio. C'est un petit avantage qui, à la fin de la saison, pourrait être important. Donc, match vraiment, qui a montré toutes les qualités de la Lazio cette saison, ouais, et a montré encore une fois que la Lazio peut aller au bout.
Demain, on en reparlera plus en détail, bien sûr, avec toi, Simone. Demain, after de 3h, donc comme tous les lundis de 21h à midi, avec Polo Breitner qui sera physiquement avec nous pour donner toutes les dernières infos sur Dortmund. Hein. Polo vient là, je rigole plus. Là, et mardi soir, l'after sera d'ailleurs à Dortmund. On sera là-bas, dans les tribunes du stade, le Westfalenstadion.
Ça va être beau.
Enfin, avant, il s'appelait comme ça. Maintenant, il a un nom de marque. Moi, je préfère Westfalenstadion.
C'est plus dur.
Le RMC Poker Show dans quelques instants avec Daniel, évidemment, jusqu'à 1h du matin.
Je sais que je le dis souvent parce que c'est souvent arrivé cette année. C'est au moins la troisième ou quatrième fois.
Oh, je sens que c'est le Zidane du poker.
Non, pas le Zidane, mais on l'a déjà eu, le Zidane, les Maradona, le Martini. Ouais. Là, on en a un autre.
Le Valbuena.
On va dire une sorte de Cruyff du poker, Patrick Antonius, qui est une des légendes de ce jeu depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est un très gros casting. Il est de passage à Paris parce qu'il avait une partie importante à jouer. Et il vient dans le RMC Poker Show, on est très contents.
Superbe.
C'est juste après les infos et nous l'after. C'est demain soir 21h. Bonne nuit à tous.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.